quand on dit alors c'est le prix des tickets de métro le problème de Chili. C'est pas ça, c'est que ça c'est le dernier problème. Premier l'électricité, les prix de l'eau et aussi la santé, l'éducation et maintenant le métro.
Extrait d'un reportage diffusé dans l'émission d'information locale de Canal B le 24 octobre dernier. On y entend Claudia, chilienne installée à Rennes, lors du premier rassemblement de la communauté chilienne dans la capitale bretonne. Des actions menées en signe de soutien à leurs compatriotes mobilisés dans un important mouvement social depuis le début du mois d'octobre, dans la capitale Santiago et ailleurs dans le pays. Si c'est la hausse du prix du ticket de métro qui a déclenché une véritable colère populaire, les sources du soulèvement sont-elles plus nombreuses et liées au modèle économique du pays. Ultra-libéral, le modèle économique chilien a été élaboré durant la dictature d'Augusto Pinochet, de 1974 à 1990, par ce dernier et inspiré des Chicago Boys, un groupe d'économistes chiliens formé à l'université de Chicago. Privatisation des entreprises publiques, système de retraite par capitalisation auprès de fonds de pension privés, austérité budgétaire dans les domaines de la santé et de l'éducation font partie des mesures à leur mise en place, dans un pays depuis surnommé le Jaguar de l'Amérique du Sud pour sa stabilité économique. Figurez-vous que ce modèle est même inscrit dans la constitution chilienne. C'est pour cela que les manifestants réclament l'écriture d'une nouvelle constitution. Ils ont été jusqu'à 1 million dans les rues depuis le mois d'octobre. Et face à eux, une répression violente, inédite. 26 civils tués, 28 000 personnes arrêtées, 113 cas de torture, 24 cas de violences sexuelles et de viols. C'est le bilan actuel, terrible, pourtant réfuté par les autorités chiliennes. Alors qu'est-ce qui pousse les citoyens chiliens dans les rues? Quelles sont les particularités du mouvement social en cours? Comment essayer de décrire ce modèle économique chilien hérité d'une dictature meurtrière, celle d'Augusto Pinochet, décédé en 2006 sans même avoir été jugé? La réponse tout de suite sous forme d'une discussion à deux voix. Bienvenue dans Chercheurs en ville. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Chercheurs en ville. Aujourd'hui, notre invitée est Ximena Obregón Itula. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en études hispano-américaines à l'université Rennes 2, également responsable de l'Institut des Amériques de Rennes. Vos recherches portent sur les conflits politiques et culturels, idéologiques, également symboliques en Amérique hispanique du XVIe siècle à aujourd'hui. Et à vos côtés, Daniela Durán-Cid, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes doctorante à l'université Rennes 2 et lectrice à l'Institut d'études politiques Sciences Po de Rennes. Dans cette émission, vous répondrez aux questions de Colette David. Bonjour Colette.
Bonjour.
Et à côté de vous, Christian Lebar pour la Maison des sciences de l'homme en Bretagne. Bonjour Christian.
Bonjour Lucie, bonjour à tous.
Colette, je vous laisse la parole.
Ximena Obregón Itula, vous avez publié avec d'autres collègues un livre qui s'intitule « Le 11 septembre chilien, le coup d'État à l'épreuve du temps, 1973-2013 ». Et dans la préface, vous et vos collègues, vous dites « Nous faisons partie de l'histoire étudiée ». J'aimerais bien que vous retraciez brièvement votre parcours. Et...
Oui, donc cet ouvrage est issu d'un colloque, un colloque qui a eu lieu à Rennes en septembre 2013. Donc on voulait marquer cette date anniversaire et je l'ai organisé avec un collègue de Brest, Jorge Muñoz, avec l'appui de la MSHB. Donc c'était un colloque qui était fait sur deux sites et c'est une partie des travaux de ce colloque qui a été publiée au PUR. Et le collègue et moi-même, nous faisons partie de cette vague du premier exil chilien. Nous étions jeunes ou enfants lorsque nous sommes arrivés et nous faisons partie donc de ce premier exil chilien. Et nous sommes tous les deux restés travailler dans cette région Bretagne et nous tenions à avoir un événement qui se passe aussi en province, pas seulement à Paris, puisqu'il y a eu d'autres colloques. Donc la dimension régionale nous paraissait importante.
Mais vous arrivez en France en quelle année?
Moi, personnellement, j'arrive en France en 1974.
D'accord. Pour mémoire, le coup d'État du général Pinochet, 11 septembre 1973, contre la gauche et le président socialiste Salvador Allende. On précise ça, mais bien sûr, nous reviendrons sur l'après-Pinochet. Et là, aujourd'hui, le Chili connaît un très fort mouvement de contestation. Il y avait eu la contestation des étudiants en 2011, celle des retraités en 2017. qu'est-ce qui caractérise cette crise qui a démarré à la mi-octobre et qui la distingue des autres mouvements?
C'est à la fois une surprise et ce n'est pas une surprise, parce qu'il y a eu, comme vous le dites, beaucoup de précédents. Il y a eu des mobilisations massives, importantes, et une conflictualité sociale très forte au Chili qui monte depuis une dizaine d'années. Donc c'est vrai que personne n'aurait pu prévoir, après coup on peut toujours prévoir et dire que ça pouvait se passer ainsi, mais c'est vrai qu'il y a le côté massif, l'intensité et la durée, hein, puisqu'on est quand même quasiment à 2 mois et la mobilisation ne cesse pas. Et pendant 6 semaines, elle était quotidienne. C'est pas une mobilisation le week-end, un jour par semaine. Il y avait des moments plus forts. Jusqu'à il y a une semaine, elle était quotidienne, et pas seulement à Santiago, qui est quand même la capitale qui regroupe entre un quart et un tiers de la population, hein, une grande agglomération.
Mais combien d'habitants au Chili?
18 millions dans le pays, et bon, après l'agglomération, tout dépend de jusqu'où on compte, mais disons 7 millions d'habitants, hein, donc une population assez importante. Donc initialement, le déclencheur de ce mouvement part de Santiago, puisque c'est une question de tarifs du métro.
Qui augmente
de 30 pesos. Et le mot d'ordre, très rapidement, c'était: la mobilisation n'est pas seulement là parce qu'il y a 30 pesos de plus à payer, mais aussi parce qu'il y a 30 ans donc de démocratie. Dans lesquels l'abus est systématique et la protestation s'adresse très directement à ce qu'au Chili on appelle le modèle. Le modèle avec un M majuscule, qui est le modèle ultralibéral que connaît le Chili depuis la dictature de Pinochet et qui a été maintenu postérieurement. La transition chilienne est une transition de continuité avec la dictature, mais on pourra peut-être y revenir.
Mais sur les revendications actuelles, on a vu et dans les graffitis, et dans les défilés, et sur les murales, les peintures sur les murs, plein de choses qui partent éventuellement ou pas dans tous les sens. Est-ce que vous pourriez nous préciser ça et rappeler, on rappelle que actuellement le pays est dirigé par un conservateur, le président Sebastián Piñera, qui a été réélu.
C'est le deuxième mandat, mais
deuxième
non consécutif.
Mandat. Non consécutif, effectivement.
Les revendications sont multiples. Chaque secteur, chaque ville a des problèmes particuliers. Et ça a été comme un volcan. Hein. Le Chili est un pays volcanique. Hein, et les gens disent que c'est comme si on avait été assis sur le volcan et que soudainement il avait fait éruption. Et toutes les revendications qui étaient là, latentes, qui existaient déjà, mais qui étaient portées par des secteurs plutôt minoritaires, se sont répandues de façon très, très étonnante. Et donc, on ne peut pas parler d'une revendication. Elles sont multiples et très, très nombreuses. Et elles vont des classes moyennes aux classes populaires. Après, il y a des secteurs qui touchent un certain nombre une fraction plus importante, disons, de la population, qui font converger des revendications. Ces revendications touchent en grande partie aux retraites. Les retraites sont un problème terrible au Chili. On a du mal à imaginer ici à quel point le fait d'être en retraite est impensable pour un système ultralibéral. L'idée est qu'il faudrait travailler jusqu'à sa mort. Et la retraite, elle peut avoir. Un retraité peut toucher 15% de son salaire.
De son salaire.
20%. Un collègue me disait l'autre jour qu'il pensait qu'il était privilégié parce que s'il arrivait à faire 30 ans, à prendre sa retraite dans son université d'origine, s'il avait fait 30 ans dans l'université, il toucherait à peu près 33, maximum 35% de son salaire. Et qu'ils sont très très peu nombreux à avoir cette situation. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens continuent à travailler après. Et parce qu'ils ont des retraites de misère. Et l'autre élément important, c'est que c'est imprévisible. C'est-à-dire que ces fonds de pension, il faut faire des calculs comme si on jouait en bourse. Et si on mise sur le bon plan de retraite, on peut avoir un peu plus. Et sinon, on peut quasiment tout perdre. Donc, cette incertitude est vraiment terrible. Et un des éléments très importants qui réunit des revendications très, très diverses par ailleurs. Et le deuxième élément qui est général, c'est l'endettement. Un surendettement très très important.
Des familles
pour faire les achats du mois. Hein. Oui. Ils payent en carte de crédit, ils ont des cartes de crédit de chaque magasin et les taux d'endettement sont faramineux. Et à ça s'ajoute un endettement particulier pour les études. Les universités sont payantes, y compris les universités publiques, et elles sont chères. Et il y a un endettement très très fort des familles et des jeunes. Daniela pourra vous en parler plus précisément. Juste pour finir, on se trouve à un moment dans lequel on a à la fois les premiers retraités qui arrivent avec ce système, qui ont vécu toute leur vie sous ce système, donc qui ont des retraites vraiment très basses, et en même temps des familles qui sont très endettées pour payer les études de leurs enfants. Donc là, il y a des éléments structurels qui permettraient de comprendre un peu pourquoi cette mobilisation est si massive. Alors, pourquoi elle a lieu aujourd'hui et pas il y a un an ou pas il y a deux ans? Je pense qu'il manque un peu de temps et un peu de recul pour pouvoir analyser plus précisément. Mais ces deux éléments-là, ils sont fondamentaux pour comprendre le pourquoi de la mobilisation.
Et c'est intéressant parce que il y avait déjà eu sur ces thèmes des grands mouvements, donc en 2011 et 2017.
Peut-être que
Daniela,
moi, j'ai
peut-être
l'idée un peu que oui, en fait, que les mouvements sociaux, c'est comme a dit Jimena, une convergence, c'est-à-dire qu'on commence par un secteur, les étudiants, ensuite les retraités, mais que finalement la discussion de fond, la réflexion est sur le système. Dans la généralité du système et toutes les conséquences qu'il y a eu ce système finalement. Donc cette idée de la privatisation finalement de tout, de la santé, de l'éducation, les transports. Donc c'est pas aussi anodin que ça commence par le transport, parce que c'est aussi quelque chose qui touche cette classe moyenne principalement et les gens qui travaillent. Donc il y a quelque chose finalement qui fait que après, je sais pas, 30 ans, mais surtout la dernière peut-être décennie ou à partir de 2006-2011, les gens commencent à regarder quelle est l'origine du problème. C'est-à-dire qu'on regarde tous les secteurs, mais on se dit, bon, c'est quoi qui est vraiment mis en question ici? C'est le modèle, comme a dit Jimena. Et on revient aussi à la discussion sur la constitution de 1980. Qui est la constitution de la dictature, finalement. Donc c'est là aussi où il y a une analyse de la part de certains secteurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est aussi une demande transversale, c'est de remettre, de discuter cette constitution et l'origine du modèle économique et politique qui est inscrite dans cette constitution. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une demande forte d'une assemblée constituante. Et ça, c'est quelque chose qui, si on regarde les chiffres, le pourcentage, était déjà présent dans l'opinion publique, mais qu'aujourd'hui, il y a 85% de Chiliens, et selon les enquêtes, qui sont d'accord pour changer la constitution.
Christian Lebas.
Oui, vous arrivez sur le terrain sur lequel je voulais venir aussi, c'est-à-dire il y a une dimension de néolibéralisme effréné, etc., qui est un des héritages de Pinochet, hein. Mais il y a aussi une autre dimension qui est, et très franchement, depuis ce que les médias français disent du Chili, on a un petit peu de mal à se faire une opinion, qui est la dimension strictement politique, c'est-à-dire il y a deux lectures des événements possibles. Il y a une lecture qui consiste à dire, après tout, c'est un pays dans lequel il y a des alternances politiques, hein, les élections, il y a des alternances politiques, il y a des mouvements sociaux, sur la retraite et, et sur les transports, mmh. ça nous rappelle quelque chose. Hein. Mmh. Bon, voilà, donc après tout, on a là des indicateurs qui sont ceux d'une démocratie conflictuelle dans un pays qui traverse une crise économique. Mais enfin, bon. Et puis il y a une autre lecture qui consiste à mettre peut-être plus l'accent sur les modalités de la répression des mouvements sociaux et qui là nourrit une autre interrogation beaucoup plus sombre sur des formes alors je sais pas c'est ma question hein, de populisme il me semble pas mais peut-être de dictature ou de retour d'un régime policier de mise entre parenthèses des libertés publiques etc. Alors qu'en est-il?
Héritage de Pinochet, certainement. Une étudiante de Sciences Po, justement, avait travaillé les unes des journaux le lendemain de la mort de Pinochet. Et dans ces unes, et les pages principales des journaux, tous revendiquaient l'héritage économique. Il y avait une condamnation des violations des droits humains, mais le modèle, comme on dit au Chili, était revendiqué. Et ça s'explique aussi parce que cette transition, elle a été verrouillée. Et il ne faut pas oublier que s'il y a des élections plurielles et un président élu qui arrive en 1990, Pinochet reste chef des armées jusqu'en 1998. Et que les militaires tutellent la transition. Et beaucoup d'éléments de ce modèle économique sont verrouillés dans la Constitution. Et l'idée que l'État est subsidiaire. Est très présente et que donc le
modèle économique est inscrit dans la Constitution.
Est inscrit dans la Constitution. Oui. Et l'enjeu de la constituante est aussi de pouvoir toucher à ce modèle économique. Criminalisation des mouvements sociaux, certainement. Mais parce qu'il n'y a pas eu d'épuration aussi des forces de l'ordre et de l'armée, qui ont gardé des zones de contrôle très très fortes et qui en plus, eux, ont des régimes de retraite spéciaux qui sont restés sur un système solidaire et n'ont pas de capitalisation comme le reste de la population. Donc, à salaire égal, un enseignant et un militaire toucheront des retraites totalement différentes. Et ça fait aussi monter une détestation de l'armée et de la police parce qu'ils ont une situation de privilège, en plus de leur façon d'agir qui est très violente. Mais je ne dirais pas que c'est un retour de la dictature. Je pense que c'est plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'il y a des éléments dans le fonctionnement des forces de l'ordre, dans leur façon de passer outre les droits humains, qui sont constants. Et qui sont plus visibles à certains moments et dans certains espaces.
On a parlé de couvre-feu, de...
Ça c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'après ces quelques jours d'émeute, il y a eu l'état d'urgence. Et les militaires ont été sortis dans la rue et ça a été vraiment très choquant pour une grande partie de la population.
Qui n'avait pas vu ça depuis Pinochet.
Qui n'avait pas vu ça. Ceux qui avaient vu cela étaient tétanisés et le sont encore. Mais ce qui est très étonnant, c'est que les jeunes qui n'ont pas connu ça n'ont pas peur. Et qu'ils bravaient les forces de l'ordre. Ils sortaient la nuit alors que le couvre-feu était présent. Donc là, il y a une question générationnelle très forte qui est présente. Mais même avant, même pendant toutes ces années, il y a des espaces dans lesquels les forces de l'ordre ont joué des rôles très néfastes en criminalisant toute mobilisation sociale. Et en particulier dans toute la région Mapuche, donc les Indiens du sud du Chili, qui vivent la situation qui est vécue depuis 2 mois au Chili, qui la vivent depuis des années et des années. Ils disent aujourd'hui que le reste des Chiliens comprend ce que eux vivent, les montages policiers, les descentes, etc., etc. Donc pas un retour, mais plutôt une résurgence à certains moments d'éléments qui sont là depuis la dictature et qui n'ont pas été changés par les différents gouvernements démocratiquement élus.
Là, début décembre, Amnesty International a fait un rapport sur la situation au Chili depuis le début de la crise, donc depuis plusieurs semaines, en disant que l'État est responsable de ces violences systématiques, que ce soit des violences physiques et ou sexuelles. Il y a eu des morts. Le bilan en cette fin... En cette fin décembre est de quoi, de 23, 25 morts, plusieurs centaines de plusieurs milliers de blessés, et bien sûr, et aussi des milliers d'arrestations de gens torturés, de viols. C'est Amnesty qui le dit, et bien avant, bien sûr, les associations de droits de l'homme au Chili. Récemment, je lisais dans un journal, ça se situait pareil début décembre, la police chilienne a dû acheter en urgence du gaz lacrymo au Brésil parce qu'elle n'en avait plus. Elle avait épuisé tout son stock. Et depuis le début, les carabiniers, il y avait des chiffres très précis, ont utilisé 98 000 bombes lacrymo, 18 000 grenades à main, et tirait 161 500 cartouches de chevrotine. Enfin, c'est... Quand même, vous n'aviez pas connu ça au Chili depuis...
Dans certaines manifestations, oui, et dans les manifestations d'étudiants notamment, moi je participais pendant les années 2000, et c'est vrai qu'il y avait une forte répression, mais on n'avait jamais vu à cette ampleur, non, de carabiniers, de policiers qui tirent face aux manifestants de 3 à 5 mètres. Donc, je pense que c'est aussi une réaction différente, peut-être, de la part de forces de l'ordre. Mais de toute manière, comme a dit Jimena, et dans certains secteurs de la population, on connaissait bien déjà ce type de répression, notamment dans le monde mapuche et dans le sud du Chili. Donc, c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus large et ça touche une population plus grande, je veux dire.
Vous parliez tout à l'heure de convergence des luttes. Oui. Effectivement, on est a priori plutôt sur un modèle de malaise, ou plus que ça, dans la jeune génération, ces classes moyennes qui vont à l'université, etc. Et puis là, vous évoquez également les Mapuche, oui. Un Chili plus rural. Donc, comment se fait la jonction, enfin, tu as un peu répondu, mais...
Oui, parce que ces éléments sont communs, mais il y a des éléments spécifiques. Il y a des éléments spécifiques selon l'origine socio-économique. Les classes moyennes hautes et les classes moyennes en général, urbaines, sont très touchées par la privatisation de l'espace public des routes. C'est-à-dire que ce qui se passe dans les autoroutes en France se passe dans des routes dans les villes au Chili.
Avec des péages et des
avec des péages internes, hein, avec un système de tag qui est un bip, qui à chaque fois qu'il fait bip, il décompte un tarif. Ce tarif augmente tous les ans, très fortement. La concession, elle a été donnée dans des conditions très avantageuses et le nombre de conducteurs, d'automobilistes a augmenté et rien n'a changé, sauf que ça monte de façon obligatoire de 3, et quelques pourcents tous les ans. Et ça arrive à une situation dans laquelle, y compris des gens assez fortunés, ne peuvent plus payer. D'autant plus que les amendes font que la voiture est immobilisée. Et donc, on arrive à une limite du système, à une aberration du système. Et là, la mobilisation Nomastang est très très forte et essaye de renégocier les conditions dans lesquelles on peut circuler. Parce qu'en plus, il y a des heures de pointe et des heures creuses. Et donc, dans les heures de pointe, c'est beaucoup plus cher, mais il y a beaucoup de bouchons. Et ils ne peuvent jamais savoir à l'avance combien ils vont payer à la fin du mois. Donc, c'est un élément d'incertitude très important.
Mais alors, où sont les soutiens du régime, alors ?
Les soutiens du régime...
C'est pas que l'armée, quand même.
Il n'y a pas que l'armée. Il avait 12% d'opinion favorable, Sébastien Piñera. Et je pense que dans certains sondages, c'est arrivé à un peu moins. Mais disons 10-12%. C'est peu. Mais il y a un secteur qui l'appuie très, très fortement. Et ce secteur, je pense, à mesure que la situation devient tendue, violente et qu'elle dégénère, parce qu'il faut dire que si les policiers sont là pour réprimer des manifestations et ils sont là tout le temps et qu'ils interviennent de façon très violente, lorsque les saccages ont commencé, puisqu'il y a eu des saccages importants, et surtout dans des secteurs populaires de Santiago et d'autres villes, la police a brillé par son absence. Donc il y a un sentiment de peur. Je pense que le gouvernement a très très franchement joué le pourrissement, et que si la situation se dégrade, il y a un certain nombre de personnes qui étaient favorables, qui pouvaient être dans la manifestation du 25 octobre où il y avait 1,2 million, 1,5 million à Santiago, ce qui est quand même assez impressionnant. Un certain nombre de gens aujourd'hui ont peur. Et les gilets jaunes façon chilienne, ce sont des brigades d'autodéfense des quartiers huppés qui ont peur que les pillages arrivent jusqu'à eux. Donc
ça peut basculer dans tous les sens.
On peut pas savoir, et peut-être que cette émission va être transmise dans quelques jours, peut-être que tout aura changé et que on n'aura pas vu juste. Et c'est un peu c'est périlleux de faire cet exercice en direct sans le recul. Là, Christian le sait bien, mais bon, je pense qu'il faut quand même oser le faire. On peut pas savoir ce qui va se passer. On peut pas savoir si ça va basculer d'un côté ou de l'autre. Mais on a ce phénomène. Je t'ai répondu pour les classes moyennes, moyennes hautes, urbaines. Dans les secteurs populaires, on a un phénomène très impressionnant, et je suis sûre, Christian, que ça va t'intéresser. Ce sont les supporters ultra des deux équipes de foot les plus importantes du Chili, qui sont en rivalité constante depuis toujours. L'Université du Chili, l'équipe de l'université, et l'équipe du Colo-Colo. Et ils sont rivales, elles se battent, et c'est historique. Et là, elles sont très présentes dans les manifestations, elles sont très politisées, et elles ont fait un pacte. Le 25 octobre, on les a vues défiler bras dessous, bras dessus. Ce qui est impensable pour quelqu'un qui...
Ensemble contre le régime.
Contre le régime. Okay. Et des centaines et des centaines de jeunes de quartiers... populaire, et pas seulement, mais les bases, en particulier du Colo-Colo, sont quand même des quartiers très populaires, et ils sont présents. Et ils sont présents avec leurs chemises d'équipe de foot et leurs chansons, mais présents, et ils ont empêché que les matchs de foot puissent continuer à se faire normalement. Pendant 4 semaines, ils ont empêché que les matchs du championnat reprennent. Et les dirigeants ont organisé des matchs, je crois que c'est le 4e ou 5e week-end, peu importe. Et ils n'ont pas pu finir parce que les terrains de foot ont été envahis par les supporters qui ont saboté. Résultat, ça s'est arrêté là. La saison, on arrive à l'été là, la saison a été finie. Il n'y a pas pu avoir... Et leur argument, c'était qu'ils ne pouvaient pas continuer à assister au match de football alors qu'il y avait un enjeu aussi important et qu'ils ne pouvaient pas tourner le dos au peuple.
Mais quand vous dites que ça peut basculer, on ne sait pas comment. Est-ce que la crainte d'un coup d'État militaire... C'est quelque chose qui est pas du tout d'actualité, et tant mieux. Ou est-ce que dans la tête des Chiliens, c'est quelque chose qui peut à nouveau se produire ?
Il y a la peur. Il y a la peur quand même qu'il y a de voir l'armée sortir à nouveau. Je ne sais pas si dans le mot, la catégorie coup d'État, mais un état d'urgence à nouveau, par exemple. Et c'est ce qu'on a dit Jimena tout à l'heure, c'est la crainte aussi de voir... cette présence militaire dans les rues, non ? Ça, c'est déjà, je pense, que transversal.
Jusqu'au 17 novembre, à cet accord pour lancer un processus constitutionnel, elle était quand même très présente. Oui. Et ça se jouait probablement à peu de choses près. Hein, on le saura plus tard, mais les échos qu'on peut avoir, et on n'est pas sur place. Hein, et la difficulté de l'exercice qu'on fait là, c'est que nous sommes aussi très... C'est une difficulté. Hein. Les réseaux sociaux, le téléphone, les contacts, les lectures nous permettent d'avoir accès à des informations qu'en France, on n'a pas. Mais nous ne sommes pas sur place. Nous cesserons de l'être le mois prochain. Mais là, on travaille un peu à distance. Mais, c'est-à-dire très à distance. Et c'est un peu incertain. Mais tout de même, avant le 17 novembre, les bruits sur une éventuelle intervention forte de l'armée étaient très présentes. Là, je pense qu'on on s'achemine vers une autre solution qui serait sortir les militaires d'une autre façon. Protéger les monuments, les secteurs stratégiques, le métro, hein, mais sans que ce soit vraiment un état d'urgence. La forme change. Dans les faits, est-ce que ces jeunes manifestants qui les bravaient pendant l'état de siège vont en rester là ? C'est pas sûr.
Le droit de vivre en paix, El derecho de vivir en paz, une chanson que Victor Jara a composée en 1971 et que nous écoutons.
El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar, más allá del ancho mar, donde revientan la flor con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Universal, cadena que ha
Vous écoutez Canal B, à l'instant c'était Victor Jara avec le titre El Derecho de Vivir en Paz. Aujourd'hui, dans votre émission consacrée à la recherche universitaire, nous recevons Jimena Obregón Itura, professeure en études hispano-américaines à l'université Rennes 2, et Daniela Duran Cid, doctorante à l'université Rennes 2 toujours, et lectrice à l'Institut d'études politiques de Rennes. À l'instant, vous avez pu comprendre les revendications des manifestants contre le gouvernement de Sebastián Piñera au Chili, non pas une, mais bien des revendications liées au modèle économique du pays construit durant la dictature d'Augusto Pinochet. À présent, il va être question de la continuité du modèle économique chilien, soutenu également par une partie de la gauche, dans un système politique et démocratique à bout de souffle et rejeté par une grande partie des citoyens.
Jimena Obregón Itura, ce modèle économique mis en place, inspiré par l'école américaine et mis en place sous la dictature de Pinochet, donc Pinochet 1973-1990. Depuis, il y a eu des élections, il y a eu en particulier deux fois l'élection d'une présidente socialiste, Michelle Bachelet, en 2006 puis en 2014. Elle n'a pas vraiment remis en cause ce modèle. Pourquoi ?
Elle était élue à la tête d'une coalition. Donc pas en tant que socialiste, mais à la tête d'une coalition de centre-gauche qui va de la démocratie chrétienne jusqu'à la gauche. À un moment donné, sans les communistes, et les communistes sont rentrés dans cette coalition d'opposition, qui est la coalition d'opposition aujourd'hui, après. Le Chili est un système politique dans lequel, pour gagner les élections, il faut avoir des grandes coalitions. Et cette coalition qui a pris donc le pouvoir après la dictature est une coalition dans laquelle le modèle économique dont on parlait tout à l'heure n'a pas été remis en cause et dans certains aspects, il a été renforcé.
Donc lesquels, par exemple ?
Par exemple, la question de l'éducation. La question de l'éducation, c'est après la dictature que les emprunts pour faire des études, qui étaient des emprunts d'État, sont passés aux banques. Et donc, on mit quand même les étudiants dans des situations très très difficiles à dépendre d'emprunts privés qui n'étaient plus contrôlés. Mais il y a de nombreux secteurs dans lesquels il n'y a pas grande différence dans les politiques économiques de la coalition de droite ou de la coalition de centre-gauche. Après, il y a une façon de gouverner qui est certainement différente. Il y a des éléments qui sont d'assouplissement du système, par exemple des couvertures médicales plus larges pour des secteurs populaires, avec donc deux systèmes, un système privé et un système public, très défaillant, mais qui existe tout de même. Donc... Je ne dis pas que c'est du pareil au même, je dis qu'il y a certains domaines dans lesquels il n'y a pas une énorme différence entre la façon de gouverner des deux. Après, c'est un système électoral de vote obligatoire jusqu'à il y a peu de temps. Et depuis que le vote obligatoire a été supprimé, l'abstention électorale, elle dépasse les 50% à chaque élection. Donc... il y a un refus de la classe politique et qui se manifeste depuis le 18 octobre de façon exacerbée. Aucun politique n'est le bienvenu, y compris des femmes ou des hommes politiques qui ont voulu aller dans les manifestations, faire des déclarations, se sont fait huer, se sont fait expulser. Donc il y a un refus de tous les politiques, quels qu'ils soient. Quel que soit leur parti d'origine.
Alors que la société chilienne est plus éduquée, plus politisée que d'autres, que ce soit en Amérique latine ou ailleurs.
Je ne sais pas s'il est plus politisé, non. Mais je pense qu'on est face à un moment de politisation importante de base et citoyenne. Donc ça, c'est sûr. Et il y a aussi la participation politique des nouveaux secteurs. Donc par exemple, Jimena parlait tout à l'heure de las barras, non, de foot. Donc là, on voit des nouveaux secteurs qui commence à avoir une discussion politique et qui participe aussi avec cette mouvance générale. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, juste pour ajouter quelque chose à ce qu'a dit Ximena sur le soutien de certains secteurs de la centre-gauche de la coalition au modèle. Par exemple, là, ça se voit clairement dans le financement de l'éducation, comme elle a dit. Et dans la défense, par exemple, qu'ils ont fait avec le CAE, c'était un crédit pour financer des études pour les étudiants. Et l'argument, c'était d'ouvrir l'université publique, l'université en général, à des nouveaux secteurs de la population, mais par biais de cet endettement avec la banque privée. Donc il y a toujours des justifications. On voit qu'il y a des secteurs, des grands secteurs de la centre-gauche qui sont aussi pour le modèle, avec l'idée des redistributions ou d'ouverture dans certains secteurs, mais il y a une défense quand même qui est assez évidente, moi je pense.
Christian.
Oui, j'avais une réflexion un peu de politique comparée. Quand on vous écoute, tous les ingrédients sont là, du populisme en réalité. Or, ce qui est frappant dans le cas du Chili, je ne vais pas dire... parce que comparé avec le Brésil, etc., c'est qu'on a des leaders politiques qui paraissent relativement ternes, ou en tout cas qui ne sont pas très visibles depuis la France. Alors qu'en est-il ? C'est le résultat de ma méconnaissance est-ce qu'il y a une dimension populiste dans le mandat Pinera ? Et est-ce qu'il y a un risque populiste ? Est-ce que ce contexte que vous évoquez l'un et l'autre de dépolitisation, d'exaspération, de haine de la classe politique, est-ce que ça peut faire surgir aussi des leaders, ou est-ce que le Chili est définitivement vacciné contre ça ?
Moi, je me méfie beaucoup du terme populisme qu'on met systématiquement lorsqu'on veut expliquer des phénomènes politiques en Amérique latine et qui ne fonctionnent pas vraiment toujours. Je pense que beaucoup de politiques sont populistes, mais pas plus qu'en France et pas plus qu'ailleurs. Et je ne pense pas que ce soit une clé explicative importante pour le Chili. On a des partis politiques bien installés dans le paysage, avec une histoire depuis longtemps. Il y a des leaders intéressants, capables d'un certain nombre de propositions. Dès qu'ils arrivent dans une situation à avoir à décider, ils perdent le contact avec leur base. On a une déconnexion très très forte entre ceux qui arrivent dans les postes de direction et les bases. Et ça, ça a commencé il y a assez longtemps, mais là on arrive à un point culminant de cette situation. Je pense que... donc je n'irai pas dans ce sens-là, je ne pense pas que ça soit un élément explicatif. Après, je n'ai pas la clé non plus de ce qui se passe.
Est-ce que Pinera est charismatique, par exemple ? Je ne vois pas sa tête.
Non, pas vraiment, mais Bachelet ne l'était pas non plus. Pas plus que ça. Donc, ça ne se joue pas là-dessus. Les Chiliens ont un accès important à l'éducation. Les gens sont formés. Et là, on a aussi ce phénomène de surdiplomation. On n'est jamais surdiplômé dans l'absolu, mais par rapport aux emplois auxquels on peut prétendre, oui. Et on a vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes qui ont une très bonne éducation et qui n'arrivent pas à se faire une place dans ce système. Les salaires sont très bas, la précarité des emplois est impressionnante, les licenciements se font sans aucun problème. Et donc, c'est vraiment, je crois, moi je pense que l'élément de l'insécurité, à prévoir l'avenir. Le fait qu'une famille puisse faire faillite parce qu'un de ses membres a une maladie grave et qu'elle doit vendre la voiture, vendre la maison dans le meilleur des cas, et dans le pire des cas, laisser ses proches mourir sans les soins adéquats, parce que le système de santé n'est pas derrière. N'est pas à la hauteur. Donc ces choses-là, je pense qu'elles ont une valeur qui, moi, me permet d'expliquer un peu mieux. Pourquoi cette classe politique, jusque-là, n'arrive pas à prendre en charge ces demandes, je ne le sais pas vraiment. on a du mal à comprendre pourquoi. Elle est aussi bien la coalition de droite que la coalition de gauche sont très divisées aujourd'hui. Hier, on a eu la sortie d'un des partis d'une des coalitions. Elles sont mises à l'épreuve et ils savent pas quoi faire. La première semaine, ils étaient paralysés. Ils étaient même pas présents dans les médias. Ils comprenaient pas ce qu'il se passait. Là, ils construisent quelque chose autour de cette assemblée constituante qui est très mise en cause par la population parce qu'elle a été décidée entre quatre murs, entre les parlementaires et sans aucune consultation des organisations sociales. Donc là, il y a une critique très très forte par rapport à ce processus, la façon dont il a été fait, la façon dont il va être mis en œuvre. On n'a pas beaucoup de garanties sur ce qui va se passer. Et le fait que ce qu'on appelle l'agenda économique et social a été mis au second plan et tout se concentre sur le débat autour de la constituante. Alors que les demandes immédiates, ce sont des demandes qui n'ont pas été prises en compte. Elles ont été prises en compte de façon très marginale. Piñera et son gouvernement, il a changé son gouvernement. Les minima sociaux ont été un petit peu augmentés.
Le salaire minimum.
Le salaire minimum, il a été un petit peu rehaussé, mais...
Il est de combien
700 000, ça fait combien
400 euros. Pour un coût de la vie qui est équivalent de celui de la France, avec des différences entre les quartiers, évidemment. Dans les quartiers UP, les choses ne coûtent pas la même chose que dans les quartiers populaires. Mais pour référence, un expresso coûte 1000 pesos. Donc, vous voyez que c'est quand même très, très, très faible.
Les syndicats, ils ont disparu
Les syndicats font partie, ils sont très mobilisés. C'est eux qui sont dans la rue. Il n'y a pas que des personnes individuelles. Il y a un certain nombre d'organisations sociales qui sont très, très mobilisées. Donc, ils sont présents. Ils sont présents et mobilisés.
Ils n'ont pas été invités à la discussion. C'est-à-dire que... Alors qu'ils étaient tous regroupés, il y avait los mineros, des entreprises minières, la CUT, la Centrale Unitaire des Travailleurs, il y avait les professeurs, il y avait les enseignants qui étaient déjà mobilisés au début de cette année. Donc ils venaient de sortir d'une mobilisation forte au niveau national. Et c'est un large regroupement. Et ils n'ont pas été invités à discuter, et, sauf je crois que la semaine dernière, donc 50 jours après l'explosion sociale, on considère l'avis de ce type de syndicats ou de regroupements.
On a fait des allusions aux gilets jaunes tout à l'heure. Une des caractéristiques des gilets jaunes, c'est la faible structuration, le refus de la délégation, de la représentation, du leadership, etc. Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre ou est-ce qu'il y a des leaders qui ont...
C'est tout à fait la même...
C'est du même ordre.
C'est-à-dire qu'une méfiance très très forte de la représentation.
Il pourrait y avoir des leaders médiatiques.
Il y a quelques leaders, mais qui ne durent pas longtemps. De ce point de vue là, c'est quand même un phénomène qui a des éléments.
Donc il y a une vraie crise de la médiation politique.
Il y a une vraie crise de la médiation politique et puis il y a une vraie critique quand même des pouvoirs en place, de tous les pouvoirs en place, de la presse, de l'église, des militaires et des grandes entreprises, des pharmacies en particulier. Il y a un contentieux avec les pharmacies, il y a eu un scandale énorme d'accords illicites entre les pharmacies pour monter le prix des médicaments. Et les prix des médicaments pour les personnes âgées, en particulier, sont faramineux au Chili. Donc il y a une vraie revendication, une vraie lutte pour les personnes âgées. Elles sont présentes dans les revendications, pas simplement physiquement dans les manifestations, mais dans les revendications.
Dans les manifs et c'est sur les murs, on a pu voir, j'ai relevé deux ou trois phrases, des gens qui disent « on ne demande pas une allocation ni une aumône, on veut de la dignité ». D'autres qui disent « nous ne voulons ni du communisme ni du socialisme, nous voulons moins d'entreprises privées et plus d'État ». Il y a ça aussi.
Le,
Oui, ça fait allusion un peu au modèle, à nouveau, non, l'idée de modèle, de la privatisation des secteurs qui devraient être plus considérés. La santé, on a parlé de la santé, l'éducation, donc c'est un peu ça aussi. Hein,
J'entends qu'il y a
une question globale de la situation.
Oui, il y a une critique du modèle, avec M majuscule, on a bien compris. Et en même temps, et là encore l'analogie avec les gilets jaunes fonctionne, c'est-à-dire l'entrée, c'est pas par l'entreprise, la cible, c'est pas le patronat, etc. L'entrée, elle est par la vie quotidienne, elle est par le salaire disponible, par le coût de la vie, les transports, les médicaments, etc. Et on a l'impression que c'est un peu l'expérience de la vie quotidienne qui motive la mobilisation, sans que ça aille vraiment jusqu'à la contestation anticapitaliste du modèle.
En fait, je pense qu'il y a deux choses qui ont déjà été dites. Non, la remise en question du modèle économique, mais aussi de type de démocratie que nous avons au Chili. Donc cette idée qu'il y a beaucoup de gens qui ne participent pas des processus, des décisions, par exemple, ou des délibérations. Ça aussi, c'est très, très forte. Et quand on voit, par exemple, à Santiago, à la Place Italia, cette place centrale, non, qui aujourd'hui est renommée la Place de la Dignité, ça veut dire que la réivindication aussi est pour plus de participation et pour aussi avoir une vie digne, non, des retraites dignes, mais pas que l'aspect économique du problème. C'est aussi la place des citoyens dans les décisions, dans le processus des décisions ou des délibérations en général. Non, c'est un peu ça aussi.
La question de la dignité, elle est fondamentale, parce que dans les premiers jours, les déclarations des ministres ont été vraiment terrifiantes. Avec des réponses du genre 30, puisqu'il y a les heures creuses et les heures de pointe, donc pour le billet 30 pesos de plus, il n'avait qu'à se lever plus tôt. Des choses de ce type ont embrasé, ça a été pris vraiment comme une insulte, et la question de la dignité, elle est sur le devant de la scène depuis le début. Et un mot qui revient toujours, c'est le mot d'abus. Et dans les abus, on a évidemment des interprétations différentes. Et pour certains, c'est le système n'est pas à remettre en cause, mais il y a eu des abus dans ce système-là qui font qu'il y a des choses à changer. Et pour d'autres, c'est le système en lui-même qui est un abus. Et c'est autour de ce terme, je pense qu'il y a une polysémie qui fait que beaucoup, beaucoup de gens se sont retrouvés dans la rue à manifester alors qu'ils défendent des intérêts différents. Et l'interprétation aussi dans ces questions de polysémie, la question de la paix, la chanson que vous avez fait écouter tout à l'heure, donc le droit à vivre en paix, c'est aussi interprété de façon très différente. Parce que la paix, c'est à la fois la revendication qu'il n'y ait pas de répression, que le mouvement social puisse s'exprimer librement, mais du côté les appuis du régime, l'idée de paix est celle de l'ordre, du contrôle social. Et là, il y a des enjeux très très forts par rapport à les lois qui vont être votées, qui sont déjà en préparation pour contrôler l'ordre public.
Christian.
Oui, j'avais une question sur la dimension genrée de la mobilisation, et là encore en pensant aux gilets jaunes, parce que l'entrée par le coût de la vie quotidienne, etc., est-ce que ça
La question du genre est apparue très très fortement ces dernières semaines avec la performance d'une collective féministe qui s'appelle La Stasis. Donc ces quatre filles de Valparaíso qui travaillent depuis un moment sur des questions de genre, non, et les droits des femmes et des dissidents sexuels aussi, les minorités sexuelles. Et ça a eu aussi une diffusion
internationale.
Non, internationale, qui était assez impressionnante. Mais c'est intéressant aussi au moment qu'ils sortent cette performance, c'est aussi au moment de la discussion sur la parité dans la possible, la prochaine éventuelle assemblée constituante. Parce que dans la discussion entre les partis politiques, non, et cet accord très questionné de la part de la société, non, d'une partie de la société mobilisée. Et il y avait la question de faire aussi une inclusion de peuples indiens, par exemple, et aussi de faire une assemblée paritaire. Donc,
la classe politique est très...
Et il y avait des réticences de la part
de la part politique. Et les indiens et très peu représentés.
Oui, et les... Le mai 2018, le mai féministe chilien, on ne l'a pas mentionné, mais il est quand même très important. Deux mois d'occupation d'université, de revendication, et il a changé les familles, il a changé les discussions, il a changé des choses très très quotidiennes. Donc ça ne part pas de rien. Il y avait déjà eu quelque chose de très très fort qui est mis sur le devant de la scène là, mais, et qui répond aussi à des inégalités très fortes. Là, ils viennent de changer un système qui fait que les assurances médicales privées font payer beaucoup plus aux femmes qu'aux hommes.
Et pourquoi ?
Parce que tout ce qui est dépenses maternité est fait... Et payé par... et donc là, ils viennent d'annoncer que ça va être annulé et qu'il y aura une parité dans les cotisations, mais d'ici un an. Ça ne prendra effet que d'ici un an. Donc on voit que toutes les mesures sont des petites mesures qui sont différées et qu'elles ne vont pas calmer, elles ne vont pas apaiser le malaise et la protestation actuelle. Donc la performance, elle est très intéressante parce qu'elle connecte des revendications générales des femmes chiliennes et des femmes du monde. Et à la fois, elle proteste contre des violations très concrètes qui ont eu lieu au Chili ces derniers temps, dans les commissariats. Et en particulier, il y a des symboles, des gestes. Ah, le geste de se mettre à quatre pattes avec les bras derrière le dos, c'est un geste qu'on oblige les femmes à faire lorsqu'elles sont arrêtées. Et donc, elle est très intéressante parce qu'elle joue très finement sur des éléments très concrets. Elles sont réalisées souvent face à des commissariats ou à des ministères. Ouais.
Les yeux bandés, etc.
Et les yeux bandés, etc. Et en même temps, elle parle au reste de femmes du monde.
Puisque nous sommes à Rennes, le week-end dernier, il y avait un flash mob avec cette chanson chilienne au marché des Lys, et qui est visible bien sûr sur les réseaux sociaux et tout. Et donc c'était, je ne sais pas, une trentaine ou une quarantaine de femmes et les chants en espagnol, avec la traduction contre le viol, contre les violences faites aux femmes.
Oui, et c'est intéressant, on a commencé à faire une petite recherche là-dessus, mais dans chaque pays, on adapte, on rajoute, il y a des choses très intéressantes qui se passent. Et sur de notre côté, nous avons un carnet de recherche, ceux qui s'intéressent peuvent aller regarder un carnet de recherche France, Connexion France-Chili, franchise sous hypothèse, si vous mettez hypothèse, franchise, France-Chili, vous trouvez, et on essaye de mettre des informations sur tout ce qui peut connecter la France au Chili, qui est le sens de mon travail en fait, et de celui des doctorants comme Daniela qui travaille avec moi.
On vous remercie infiniment, Daniela Durancid et Jimena Obregón Itura. Merci à notre réalisatrice Lucie Louapre. Et rendez-vous pour Chercheur en ville. La prochaine émission aura lieu le 17 janvier.